www.radioscoop.fr. Idée. Une émission proposée par Benoît Ruel. Première partie.
Bonjour ou bonsoir. S'il y a bien un sujet qui se retrouve ces derniers mois au cœur de l'activité éditoriale française, c'est bien la frontière, ou si vous voulez, les frontières. Permettez-moi, à titre de preuve, de citer quelques exemples. Michel Fouché, géographe et diplomate, professeur à l'École normale supérieure, a publié chez Perrin « L'obsession des frontières ». Étienne Balibar, philosophe, a publié aux éditions Bayard « Très loin ou très près ». Car passer la frontière, explique-t-il, c'est aller parfois très loin ou très près. Quelquefois c'est facile, on ne s'en rend même pas compte. Quelquefois c'est une épreuve terrible, c'est buter sur un mur. Ce peut être un divertissement ou une question de vie ou de mort. Maintenant, si je remonte un peu plus dans le temps, je pourrais citer le numéro novembre 2006 de la revue Esprit intitulé « Entre local et global, espace inédit, frontières incertaines ». Mais si au contraire je m'en tiens à la toute récente actualité éditoriale, je peux mentionner la diffusion sur la chaîne de télévision Histoire d'un documentaire intitulé « Les secrets du mur d'Adrien ». Cette muraille de pierre mesurant 117 km de long, 6 mètres de hauteur, 3 mètres d'épaisseur, séparant l'Angleterre de l'actuelle Écosse et qui, pendant 300 ans, resta la plus impressionnante frontière de l'Empire romain et l'une des merveilles les plus méconnues. Je pourrais signaler également le travail mené dans le cadre du musée du Louvre par le célèbre peintre Anselme Kiefer, qui a choisi de travailler autour du concept de frontière en entrecroisant les disciplines littérature, musique contemporaine, concert, danse, sciences, philosophie, histoire de l'art. Il faudrait que je dise également un mot de la merveilleuse revue de création Passage d'encre, qui, sous la direction de Christiane Tricois, consacre ses deux derniers numéros aux frontières dans le cadre du paysage européen. La phase 3 devant se conclure par un colloque dont la revue publiera les actes. Bref, vous l'avez compris, à travers ces quelques exemples, c'est bien l'obsession des frontières qui est à l'œuvre, comme si l'on ne s'était pas remis de la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, lorsque la communauté mondiale s'est mise à rêver d'une fin de l'histoire, d'un monde ouvert et sans frontières. Alors pour tenter de comprendre un peu mieux ce phénomène de la frontière, car il y a des frontières sans murs, des murs sans frontières et des murs en attente de frontières, j'ai choisi d'inviter cette semaine la revue Cité, car elle aussi vient de consacrer un numéro, son 31e, aux murs et frontières, avec un sous-titre de la chute du mur de Berlin au mur du 21e siècle. Dirigé par Yves-Charles Zarka et édité par les presses universitaires de France, Cité est désormais bien implantée dans le tissu intellectuel français. Ce numéro 31 a été dirigé par Jean-Pierre Clairaut, professeur de philosophie à l'université de Rouen, Paul Mathias, professeur de philosophie au lycée Henri IV à Paris et directeur de programme au Collège international de philosophie, fait partie de la dizaine de contributeurs rassemblés par Jean-Pierre Clairaut. Les deux hommes sont aujourd'hui mes invités. Jean-Pierre Clairaut, Paul Mathias, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Jean-Pierre Clairaut, dans la présentation que vous faites de ce 31e numéro de Cité, vous soulignez d'emblée deux choses. La première, c'est l'incroyable diversité de sens que revêt la notion de frontière. Et puis la deuxième, que la frontière, je vous cite, est la recherche fantasmatique d'une impossible réalité. Alors puisque vous avez dirigé ce numéro, est-ce que vous pouvez nous baliser un peu cette diversité sur laquelle, bien sûr, on va revenir. Et puis dites-nous aussi pourquoi, et bien la frontière, justement, selon vous, est la recherche fantasmatique d'une impossible réalité.
Merci. Le point de départ n'était évidemment pas de donner une nouvelle définition de la frontière. La frontière m'apparaît toujours aussi diverse, aussi complexe qu'auparavant. Il était, je crois, de prendre en compte un sentiment. On parle de mondialisation, or les frontières paraissent parfois n'avoir jamais autant compté qu'aujourd'hui. On prétend que les communications sur Internet brouillent ou ignorent d'une certaine façon les frontières. Or, on continue de construire des murs. Israël, par exemple, construit un mur pour s'isoler de la Cisjordanie et se protéger contre un voisin dangereux ou estimé dangereux, qu'il l'est d'ailleurs souvent. Et les États-Unis ont construit un mur, par exemple, pour se protéger contre l'immigration venue du Mexique. Alors, on ne saurait dire qu'Israël ou les États-Unis sont à la traîne sur le plan des communications et des échanges à l'échelle mondiale. Donc, des frontières se marquent de façon aussi extraordinairement physique, si je veux dire en dur, alors que ce marquage parfois paraît dérisoire. Si dérisoire que semble donc aujourd'hui une frontière, eh bien elle est encore difficile à passer.
Vous dites que exister spatialement est particulièrement ambigu.
Oui, c'est particulièrement ambigu parce que généralement, quand on essaye de regarder comment existe un esprit, si je veux dire, ou une collectivité, on prend généralement plutôt le point de vue du temps. Mais il est relativement rare que l'on prenne le point de vue de l'espace. Il est assez difficile finalement de comprendre le psychisme comme étant essentiellement quelque chose qui implique un espace. Or, ce 31e numéro de Cité propose, si j'ose dire, des variations sur les modes d'existence spatiaux de la frontière. C'est, au fond, le problème, c'est comment existe un espace politique, comment existe un espace religieux, linguistique, informatique, économique. Et comme philosophe, moi j'ai pris l'ensemble de ces réflexions un petit peu comme une pensée de l'espace, de l'intrication en quelque sorte des espaces, de la façon dont ils se combinent, se superposent, s'articulent d'une certaine façon entre eux.
Jean-Pierre Clairaut, penser la frontière en tous les cas au début d'une réflexion, c'est tout de même penser d'une certaine façon la sédentarité. Or vous dites-vous que finalement le nomadisme n'est sans doute pas une exception, ça serait plutôt la règle quand on regarde la longue histoire.
Oui, alors là vous mettez le doigt sur un de mes regrets, si j'ose dire, dans cette revue. Il se trouve que j'ai invité des gens tout à fait exceptionnels et qui ont fait de remarquables articles, mais j'aurais bien voulu que Denis Retailler, par exemple, puisse faire l'article justement sur le nomadisme. Et ce qu'il montrait dans cet article, que l'on lira ailleurs sans doute, c'est que d'une certaine façon, le nomadisme est peut-être plus essentiel que la sédentarité. Et que s'il faut comprendre d'une certaine manière la frontière, c'est plutôt à partir du nomadisme que quelque chose qui serait de l'ordre d'une espèce de chose qui existerait. Une frontière n'est pas une chose, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la fonction, c'est plutôt quelque chose qui est, qui est de l'ordre de... c'est beaucoup plus idéal d'une certaine façon qu'un morceau de réalité.
Paul Mathias.
Je voulais ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit, c'est que vous disiez que la frontière paraissait cristalliser de l'espace et sinon être la négation du nomadisme, enfin le secondariser. Moi j'ai c'est un sentiment, je ne suis pas un spécialiste de la frontière ni du territoire, mais le sentiment que j'ai, et notamment à la lecture de Montaigne, que je connais un petit peu aussi, le sentiment que j'ai, c'est qu'une frontière justement est faite pour être franchie. Et elle est faite pour être franchie parce que franchir la frontière, c'est apprendre ou observer, apprendre à connaître ou observer d'autres manières de vivre, d'autres usages, d'autres coutumes. C'est le thème montaignien du voyage, c'est le thème d'un enrichissement. Alors, bon, enrichissement personnel est une expression galvaudée qui me déplaît un petit peu, mais c'est la mise à la question de ses propres mœurs, de ses propres coutumes, c'est la mise à la question de ses propres façons de vivre. C'est la pluralisation de son propre être, je crois, le franchissement d'une frontière. C'est-à-dire la frontière ne doit pas être pensée nécessairement comme un obstacle, ne doit pas être pensée comme une frontière, c'est-à-dire comme un empêchement vers autre chose, mais au contraire comme ce qui cristallise la possibilité d'une pluralisation de soi.
Alors Paul Mathias, là vous avancez déjà dans l'émission, parce que je pensais vous interroger tous les deux évidemment sur cette grave question dans la seconde partie de l'émission, mais ça ne change rien, vous l'abordez, donc c'est important. Jean-Pierre Clairaut ou Paul Mathias, je ne sais pas qui va me répondre. La frontière aujourd'hui, c'est peut-être un fantasme, c'est peut-être une difficulté à vivre, c'est peut-être une chose qu'il faut penser différemment, sauf qu'elle est bien là et elle pose un certain nombre de problèmes tout à fait précis. Étienne Balibar, que je citais au début de cette émission, a une tournure assez drôle. Il dit, pourquoi y a-t-il des frontières? Parce que les Français sont des Français. Et pourquoi les Français sont-ils des Français? Parce qu'ils sont séparés des autres par des frontières. Alors, on voit bien, évidemment, qu'on est à la limite de la tautologie. En tous les cas, on va tourner en rond. Oui. Comment poser la frontière aujourd'hui? Comment poser ce problème?
C'est extrêmement difficile, parce que vous pouvez très bien passer de la France à la Belgique, par exemple, sans véritablement savoir que vous avez passé une frontière. Je veux dire, vous en apercevez une fois que vous êtes du côté de Tournai. Et donc, d'une certaine façon, on peut... La frontière semble ne pas exister matériellement. Seulement, quand on habite d'un côté de la frontière, on vote avec certaines personnes. De l'autre côté, on vote autrement. Bon. Mais il est clair que la frontière a plusieurs acceptions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas elle n'existe pas matériellement sur les terrains. Bon, il est rare quand les choses se passent ainsi. C'est lorsque les choses deviennent militaires, se militarisent, quand d'une certaine façon, l'autre n'est plus admis de l'autre côté de la frontière.
Mais on le verra d'ailleurs, elle existe de moins en moins. Il y a des tas de systèmes, je dirais, de contrôle qui font que la frontière
existe de moins en moins. Par exemple, en Europe, il est parfaitement clair que les frontières se sont littéralement effacées. Et pourtant, elles renaissent. Par exemple, on voit des frontières linguistiques naître de manière extraordinairement violente. Il en était encore question ce matin en Belgique. Donc, on voit que le phénomène est très étrange. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui se fait très facilement oublier quand on est relativement sûr de ses valeurs, quand les choses tournent bien, si je puis dire. Mais quand tout d'un coup on est plus sûr de ce qui se passe en face, et bien d'une certaine, quand on a peur de l'autre, et bien la frontière tout d'un coup se raidit et peut éventuellement devenir un mur.
Paul Mathias, parlez-nous un peu d'Internet. On y reviendra évidemment aussi tout au cours de cette émission, parce que donnez un long article tout à fait passionnant, et vous dites au fond que ça n'est pas un territoire. Mais à la fois, il est irreprésentable, Internet est irreprésentable, sans référence à des modèles de territorialité. Alors, en quoi les espaces numériques, on peut appeler Internet comme ça, affectent-ils nos conceptions du territoire, de la territorialité et de la frontière ?
Il y a en fait deux questions. Celle que vous posez, en quoi l'Internet affecte-t-il nos conceptions de la territorialité, et la question exactement réciproque, en quoi nos conceptions de la territorialité affectent-ils notre expérience de l'Internet. Et je commencerai par celle-ci pour venir à celle que vous me posiez tout à l'heure. Celle-ci, quelle est-elle? C'est nos conceptions du territoire. C'est-à-dire, nous nous représentons l'espace avec des balises, avec des contours, avec une forme, etc. Nos conceptions de l'espace nous servent à comprendre un petit peu ce qui se passe sur l'Internet. Alors, autrefois, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, dans la presse américaine, on pouvait trouver une carte de l'Internet qui était la reproduction d'une carte géographique rassemblant l'Amérique du Nord et l'Europe, avec un certain nombre de tuyaux dessinés entre l'Amérique du Nord et l'Europe, et puis un certain nombre d'emplacements sur les deux continents représentant les grands fournisseurs d'accès à l'Internet de l'époque, le gouvernement américain, quelques places centrales en France, en Angleterre, etc. Alors donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce que nous représentions il y a une dizaine d'années par l'Internet, c'était au fond un réseau de fils, un réseau de tuyaux, et par voie de conséquence, et seulement par voie de conséquence, un instrument de communication. Ce qu'est devenu l'Internet fait que cette représentation est totalement inopérante. On ne comprend pas ce qui se passe sur l'Internet si on se contente de dire qu'il y a de très gros câbles qui traversent l'Atlantique ou qui vont de l'Europe vers l'Asie en contournant le continent africain. On ne comprend pas les choses parce que si l'on veut comprendre les choses, il faut comprendre que l'Internet, c'est de la communication, c'est du transfert d'informations, ce sont d'incessants transferts d'informations et des informations de nature ou de qualité différente. Il y a de l'information commerciale, il y a de l'information ludique, télévisuelle, de l'information tout court, les nouvelles, il y a du loisir, il y a des textes, il y a de la vidéo, etc., etc. Et cela détermine à la fois des pratiques, des modes de stockage, des modes de transmission qui sont très différents et qui, justement, à leur tour, déterminent comme des espaces communicationnels. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose, au fond, que télécharger un fichier de musique, échanger des fichiers de musique ou de vidéo. Ce n'est pas la même chose que lire les nouvelles sur le web. Ce n'est pas la même chose que écouter RFI sur le web. Nous avons affaire à des flux différents, nous avons affaire à des pratiques différentes, et nous avons affaire à donc des espèces de compartimentage.
Mais il y a tout de même un territoire qui serait le territoire, je dirais presque, de la loi.
C'est beaucoup plus compliqué que cela. Le territoire de la loi, si vous voulez, abstraitement, oui. Abstraitement, on dira que c'est le territoire de la loi et le territoire de l'Internet se confondent plus ou moins, c'est-à-dire que les usages que nous pouvons avoir de l'Internet, les uns et les autres, sont déterminés par les lois du territoire sur lequel nous vivons. Nos pratiques communicationnelles peuvent être différentes selon que nous habitons l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, l'Europe ou les États-Unis ou l'Asie, etc. D'accord, nos pratiques sont différentes parce que les lois sont différentes, mais c'est très abstrait de dire que les choses diffèrent tout simplement parce que les lois de la France ou de l'Amérique diffèrent.
Oui. Paul Mathias, si ma question est spécieuse, eh bien, vous l'oubliez, mais je vous la pose quand même. Vous dites qu'Internet n'est ni un espace ni un milieu, qu'il n'y a pas un territoire mais un effet de translation, l'état actuel d'une création continuée de myriades d'objets de sens plus ou moins richement interconnectés. Oui. Bon, tout ça c'est bien, mais à partir de là, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, et je reprends cette idée parce que tout à l'heure Jean-Pierre Clairaut a parlé à la fois de l'espace et du temps, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le territoire d'Internet, au fond, c'est un territoire temporel et non plus spatial? La temporalité l'emporterait sur la territorialité.
J'avais le sentiment, pour répondre très rapidement, j'avais le sentiment que c'était la thèse de l'article publié, oui, de mon article publié dans Cité. Est-ce que je me trompe? Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'Internet, ce n'est pas une chose. L'Internet, ce ne sont que des flux, donc oui, de la temporalité.
Jean-Pierre. Plus exactement, je ne dirais pas, moi, que Internet est essentiellement quelque chose de temporel, enfin, quoique tu ne le dises pas dans ton article, mais c'est ce qui se passe, c'est que l'espace devient uniquement une affaire de relation. C'est plus quelque chose qui existe d'une certaine façon matériellement. Ce qui devient extrêmement dominant, c'est la relation. Il existe encore des adresses, mais ces adresses ne sont pas des adresses géographiques installées véritablement dans un territoire quelconque. Et pourtant, donc il n'y a plus que les relations, d'une certaine façon, qui existent dans cet espace. Et c'est pour ça que ça donne peut-être un peu l'essence de ce que c'est qu'une frontière. Bien sûr, en même temps, les frontières existent parfois réellement et physiquement, mais, on verra ça notamment avec les murs, mais quand elles fonctionnent, j'allais dire presque normalement, elles se font assez bien oublier comme choses existantes, et elles fonctionnent essentiellement comme relations.
Eh bien, Jean-Pierre Clairaut, Paul Mathias, nous allons maintenant faire place au journal, mais bien sûr, vous restez avec nous, et dans une dizaine de minutes, nous continuons à évoquer le phénomène des murs et frontières, de la chute du mur de Berlin au mur du 21e siècle. Tel est en effet le titre du dossier constitué par la revue Cité dans son 31e numéro. Alors, la revue Cité est éditée par les Presses universitaires de France. Voici l'adresse de la rédaction, 6 avenue Reille, 75 014 Paris, avec un téléphone 33 1 58 10 31 00, une adresse internet aussi, cité au pluriel, cité@puf.com. Je redirai cette adresse à la fin de l'émission, mais bien sûr, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous nous écrivez. Notre adresse, elle n'a pas changé, je vous la rappelle, idée@rfi.fr. Ce numéro d'idée est mis en onde par Thomas Ferrière et réalisé par Patricia Lecomte. Alors restez à l'écoute, dans quelques secondes le journal, et nous vous retrouvons tout de suite après.